La nécessité du langage scolastique pour garder la foi.
Ça va vous faire peur un peu, mais vous allez voir à la fin, j'espère que ce sera beaucoup plus clair. On va expliquer la signification du mot scolastique tout particulièrement, qui est le mot clé ici. C'est un mot qui contient littéralement toute une école. Le problème du langage attendait les pères du Concile Vatican II dès le début. Une des premières questions qu'ils avaient à résoudre était celle-ci. Le Concile doit-il parler dans la langue traditionnelle spécialisée de la théologie, c'est-à-dire justement la scolastique classique, ou bien doit-il parler dans un nouveau langage moderne, plus compréhensible pour tous? Et sans bruit, ils décidèrent de prendre ce langage moderne, de mettre de côté la terminologie scolastique, bien que celle-ci fut utilisée par l'Église pendant 20 siècles. Disons tout de suite qu'il est bien possible d'enseigner la foi, d'exprimer la foi avec des termes pastoraux, dans un langage pastoral. C'est ce que tous les missionnaires ont fait dans l'histoire de l'Église. C'est ce que l'on fait dans nos sermons, essayer de mettre, je dirais, dans un langage que tout le monde comprend, surtout s'il y a des enfants, on arrive à exprimer avec des termes plus simples des grandes réalités. Mais on ne peut pas nier que l'emploi d'un langage pastoral est souvent au dépit de la clarté et de la précision dogmatique. Et dans le cas ici du Concile, utiliser un langage pastoral signifiait que les relations à la tradition disparaissaient facilement et que la clarté définitive des affirmations ne pouvait être obtenue qu'en interprétant celle-ci avec des concepts traditionnels. Vous savez, il est difficile, il est presque impossible, et c'est justement le but de cette petite conférence, qu'une Église qui est liée, qui a des racines dans la tradition, qu'il est impossible que cette Église renonce à utiliser ses notions traditionnelles sans affecter la foi. Même un concile œcuménique ne peut pas faire abstraction de cet enseignement, de ces termes, de ce vocabulaire théologique, classique, scolastique, surtout parce que, en raison de l'autorité d'un concile œcuménique, les textes du concile deviennent un fondement dogmatique pour l'Église. Alors, la première question qu'on se pose ici au début, est-ce que des documents conciliaires rédigés dans un langage pastoral, qui en tant que tel établissent une distance linguistique avec tout l'enseignement de l'Église, et dont la continuité avec la tradition ne peut être montrée qu'avec bien des nuances et des difficultés, est-ce qu'un tel langage pastoral ne porte pas déjà en lui-même le germe de la rupture avec la tradition? Du moment qu'on ouvre la bouche, il y aura une rupture, parce que le vocabulaire qu'on va utiliser sera différent. Un autre aspect aussi de ce langage pastoral, c'est que on a voulu que le Concile parle à l'homme moderne d'aujourd'hui, et en gros c'était l'homme de l'Occident. Par conséquent, ce langage perd sa catholicité. Une des marques de notre foi, c'est qu'elle est catholique. Elle a cette aptitude à être comprise dans toutes les langues, dans toutes les cultures. Saint Thomas d'Aquin a été bien compris au Japon, aux Indes, dès qu'on a commencé à l'enseigner. Et malgré ce que le cardinal Léger a pu dire pendant le concile, il a fait une intervention et il a dit « La scolastique ne s'adapte pas aux peuples non occidentaux », dit le cardinal Léger, alors que c'est faux. Et ça s'adapte très bien. La question du langage était apparemment une question pastorale. En réalité, c'est un problème tout à fait différent, qui revêtait une toute autre dimension. C'était le problème séculaire de la compréhension de la foi dans le monde contemporain, dans le monde moderne. La renonciation des pères conciliaires au langage scolastique traditionnel a ouvert de fait quasi officiellement, mais presque sans bruit, les écluses pour une nouvelle théologie en un instant, alors que le problème linguistique remuait l'ensemble de la théologie catholique. Il y a un livre qui vient de paraître aux éditions Fidélitaires qui s'intitule « L'étrange théologie de Jean-Paul II et l'esprit d'Assise » par un père Dormann, un Allemand. « L'étrange théologie de Jean-Paul II et l'esprit d'Assise » Et l'auteur écrit justement en parlant de cette question très importante, je cite à la page 55, « La nouvelle théologie se présente avec plusieurs facettes, mais elle est simple dans son principe, et c'est pourquoi on peut regrouper ces multiples formes sous le même nom. Ces différentes formes ont en commun le rejet de la théologie traditionnelle. » Et quelques pages auparavant, il avait écrit, et c'est là un peu la thèse, si on peut dire, de la conférence. Les théologiens dirigeants du Concile virent bien sûr que dans cette question de langage, il s'agissait de l'affaire, de toute l'affaire de la théologie et de la foi. Car la langue scolastique était indissolublement liée à la philosophie scolastique, celle-ci à la théologie scolastique, et celle-ci enfin avec la tradition dogmatique de l'Église. Alors, je vais écrire ça seulement au tableau. De la langue scolastique qui conduit les mots utilisés sont des mots de philosophie, donc je vous explique la philosophie scolastique. Elle-même. Finalement, et tout ça, c'est la tradition. Si vous gardez un peu ce plan en tête, vous arriverez à comprendre. Vous verrez les papes en ont parlé beaucoup. Alors, je rappelle un peu. La langue scolastique est indissolublement liée à la philosophie scolastique. Celle-ci à la théologie scolastique et celle-ci enfin avec la tradition dogmatique de l'Église. Et finalement, le père Dormann dit, l'abandon par les pères du Concile du langage de l'école scolastique était pour eux la condition sine qua non, la condition absolument nécessaire, de la rupture avec l'ancienne dogmatique afin de mettre en place la nouvelle théologie après avoir cessé d'utiliser l'ancienne et pris congé d'elle. La question de langage est une question très profonde. Voilà pourquoi Saint Paul lui-même, dès les débuts de l'Église, dès les années 50, exhortait Timothée de garder le langage traditionnel. Ô Timothée, garde le dépôt d'évitant profanas vocum novitates, en évitant les discours vains et profanes, évitant la nouveauté des discours, les nouvelles paroles qui ne sont pas claires. 1 Timothée, chapitre 6, verset 20. Voilà aussi pourquoi les pontifes romains, selon les besoins de chaque époque, ont pris tant de soins, soit par les conciles généraux, les conciles œcuméniques, soit par les conciles provinciaux, soit par leurs documents, de définir exactement le sens certain des vérités de foi, en les énonçant en dogmes immuables pour tous les temps. Les dogmes, nos dogmes de foi catholique, sont exprimés avec des mots, mais ces mots ne peuvent pas être changés selon les époques. Il y a des termes philosophiques et théologiques qui ont été marqués par le sceau de l'infaillibilité et donc qui ne peuvent plus être changés. Par exemple, le mot transsubstantiation, le mot consubstantiel, ce sont des mots qui sont absolument nécessaires à notre foi catholique. Au Concile Vatican II, Monseigneur Lefebvre a fait une intervention demandant, c'était au début du Concile, demandant que chaque texte du Concile ait deux parties, une partie très technique, très spécialisé pour les évêques et les professeurs de séminaire en termes scolastiques, et une deuxième partie en langage plus simple pour les fidèles, pour qu'au moins on ait des documents qui définissent les termes qui sont utilisés. Et cette suggestion fut refusée. On ne voulait pas de précision linguistique dans le concile. On voulait abandonner le langage traditionnel. Malgré ce que les papes avaient dit pendant pratiquement le siècle qui a précédé Vatican II, à de nombreuses reprises, les pontifes romains sont intervenus pour défendre la philosophie et la théologie scolastique, donc le langage traditionnel scolastique, le langage qui était sous attaque régulière. Nous le verrons sous Saint Pie X, sous Pie XII. Les ennemis de l'Église, depuis longtemps, essaient de se débarrasser de saint Thomas d'Aquin parce qu'il est un obstacle à la destruction de l'Église. Alors voyons un peu les papes, ce que les papes ont dit dans leurs documents pontificaux. Ça vous aidera à comprendre aussi mieux le sens du mot scolastique et aussi l'importance que saint Thomas d'Aquin a dans l'Église catholique. Vous savez très bien, ceux qui ont commencé à suivre, ceux qui sont membres des cercles d'études, le but des cercles d'études catholiques, c'est justement d'étudier et d'approfondir la doctrine des papes à la lumière de saint Thomas d'Aquin, le docteur de l'Église. Alors, c'est vraiment ce que nous allons faire maintenant. Je vais mentionner quatre papes. Le premier, Pie IX, sera très rapidement, c'est une petite mention. Ensuite, Léon XIII, Saint Pie X et Pie XII, avec un peu plus de détails. Il est important de nous rappeler que notre foi catholique, c'est l'adhésion de notre intelligence aux vérités révélées de Dieu, mais proposées par l'Église. C'est l'Église qui nous donne la foi. L'Église passe avant la Bible. L'Église passe avant tout. C'est l'Église qui nous dit ceci est l'Écriture, ceci est la tradition. C'est l'Église qui nous donne notre foi. C'est pour ça qu'il est très important de retourner sans cesse aux enseignements des pontificaux, pour savoir, justement, pour avoir l'esprit de l'Église et la pensée de l'Église. Pie IX, dans son syllabus du 8 décembre 1864, donc pratiquement 100 ans avant Vatican II, a condamné la proposition qui dit qu'il faut balancer la scolastique. Voici la 13e proposition condamnée par Pie IX. La méthode et les principes d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie ne sont plus en rapport avec les nécessités de notre temps et les progrès des sciences. Ça, c'était en 1864. Déjà, à ce moment-là, il y avait une tendance à éliminer saint Thomas d'Aquin et les pères scolastiques, parce que c'était pas en rapport avec les nécessités des modernes. Mais passons surtout à Léon XIII. Léon XIII, qui a une encyclique très importante sur saint Thomas et sur la philosophie scolastique, qui s'intitule Eterni Patris, du Père éternel. Eterni Patris, du 4 août 1879. L'encyclique a une introduction, ensuite deux parties, puis une conclusion. Au début, dans l'introduction, il attaque le problème au cœur. Les mauvaises philosophies faussent les intelligences, dit-il. Moi, je vous résume seulement. La foi et la bonne philosophie, au contraire, doivent se donner la main pour combattre les erreurs et enseigner la religion. La foi a besoin de la philosophie et la philosophie a besoin de la foi. Les deux cèdent l'un l'autre. Dans sa première partie de l'encyclique, il développe différents aspects, justement, des rapports entre la foi et la raison, la philosophie étant la servante de la théologie, la ancilla theologiae. La philosophie donne à la théologie tous les termes qu'elle utilise, par exemple le terme de nature. Notre Seigneur a deux natures, une personne, les relations dans la Sainte Trinité, la présence réelle, le mot présence, la substance ou les accidents. Tous ces termes sont des termes philosophiques que la foi a besoin pour s'exprimer. La philosophie montre que la foi est raisonnable. Elle n'arrive pas à démontrer la foi, mais elle montre que la foi est raisonnable aussi. Et elle établit les fondements, les preambula fidei, ce qui est présupposé à la foi. Par exemple, que l'âme existe, que Dieu existe. Mais passons à la deuxième partie, qui est une partie historique, et qui est là, qui nous fera entrer justement dans ce monde scolastique. Dès le berceau de l'Église, nous dit Léon XIII, la doctrine catholique rencontra des adversaires qui tournèrent en dérision les dogmes et les principes des chrétiens, en affirmant par exemple l'existence de plusieurs dieux, en niant la providence divine. Et immédiatement, en même temps que ces premiers hérétiques, il y a eu les champions de l'orthodoxie qui se sont levés, les apologistes des premiers siècles, des hommes savants qui utilisèrent non seulement des arguments de la révélation, mais beaucoup d'arguments de la sagesse humaine. Et même sont allés fouiller dans les philosophes grecs anciens pour voir ce qu'il y avait de bon en eux et pour montrer qu'il existait souvent entre la philosophie grecque, d'Aristote par exemple, et la doctrine révélée, il y avait souvent un accord. Un de ces grands apologistes fut Saint Justin. Et à la même époque, il y a eu Saint Irénée, qui était disciple d'un disciple de Saint Jean. On est vraiment dans les premières générations de l'Église. Saint Irénée, premier évêque de Lyon, il expliqua, en réfutant les erreurs des gnostiques, que les origines de toutes les hérésies se trouvent dans les écrits des philosophes. Il y a des erreurs philosophiques à la base de toutes les hérésies. C'est intéressant, Saint Pédis dira la même chose au début de notre siècle. Ensuite, Léon XIII continue, alors je saute un peu, il passe par les différents pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Lactance, Saint Athanase, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, et ainsi il arrive au Moyen-Âge. Je cite, « Les docteurs du Moyen-Âge, connus sous le nom de scolastiques, donc ce sont ces théologiens, du Moyen-Âge, 11e, 12e, 13e siècle, recueillir avec soin les riches et abondantes moissons de doctrines répandues çà et là dans les œuvres innombrables des pères et en font comme un seul trésor pour l'usage et la commodité des générations futures. » Alors, c'est l'Église, après 1000 ans d'existence, qui a ces savants, ces grands théologiens, qui vont faire une synthèse de toute la tradition, de tous les pères de l'Église. Ils vont puiser dans tous leurs écrits et faire vraiment des sommes de leurs enseignements. Ça résume le passé et ça nous livre, ça livre pour au futur aussi, les premiers 1000 ans d'enseignement de l'Église. Les premiers 1000 ans, vous avez toute la Sainte Écriture, les interprétations des pères d'Église, les enseignements des papes, les pères de l'Église, les conciles. C'est ça ce qu'on appelle les docteurs scolastiques. Ce sont ceux qui ont vécu à cette époque-là. La théologie scolastique, nous dit Léon XIII, a des qualités qui lui viennent uniquement du bon usage de la philosophie. Et là, il décrit un peu justement la méthode, parce qu'il y a une méthode scolastique qui fait justement la force. Je cite encore Léon XIII, et de fait, lui cite le pape Sixte V. Cette cohésion étroite et parfaite des effets et des causes, cette symétrie et cet ordre semblable à ceux d'une armée rangée en bataille, cette définition et distinction lumineuse, cette solidité d'argumentation, et cette subtilité de controverse par lesquelles la lumière est séparée des ténèbres, le vrai distingué du faux, et les mensonges de l'hérésie dépouillés du prestige et de la fiction qui les enveloppent, sont découvertes et mises à nu. Il y a tout un système scolastique. On éclaircit les notions, on divise les différents sens, on donne des définitions précises pour savoir de quoi on parle. C'est justement ça qu'on a refusé de faire au Concile Vatican II et qui a été une des grandes faiblesses. Et après avoir décrit un peu la scolastique, ce qu'on entend par justement scolastique, cette période de l'Église, surtout du XIIe siècle, Léon XIII, on arrive à saint Thomas d'Aquin, qu'il appelle le prince et maître de tous les docteurs scolastiques. Après avoir profondément vénéré les saints docteurs qui l'ont précédé, nous dit Léon XIII, il a hérité en quelque sorte de l'intelligence de tous. Il recueillit leurs doctrines comme les membres dispersés d'un seul corps. Il les réunit, les classa dans un ordre admirable et les enrichit tellement qu'on le considère lui-même à juste titre comme le défenseur spécial et l'honneur de l'Église. Il a traité toutes les parties de la philosophie, du raisonnement humain, la psychologie, la logique, de Dieu, de l'homme, les actes humains, leurs principes, la morale. Et il est bien connu par la clarté de son style et la précision de son vocabulaire, la propriété de ses expressions. Mais Léon XIII nous dit que non seulement il a bien résumé, il a bien saisi tous les principes philosophiques des anciens, mais, je vous cite encore le pape, il a considéré les conclusions philosophiques dans les raisons et les principes même des choses. Il est allé au cœur des choses. Or, l'étendue de ses prémices et les vérités innombrables qu'elles contiennent en germe fournissent aux maîtres des âges postérieurs une ample matière à des développements utiles qui se produiront en temps opportun. Alors, il nous dit qu'il nous a vraiment donné il est allé tellement au fond des choses, à la nature même, à l'essence des réalités, qu'il transcende les siècles, qu'il dépasse justement les conditions changeantes de chaque époque. Il nous donne des principes immuables. Et ce sera un point de doctrine que Saint Pie X et Pie XII aussi reprendront, que Saint Thomas, dès le XIIIe siècle, il est mort, si je ne me trompe, en 1274, en allant au Concile du Latran, eh bien, dès le XIIIe siècle, a répondu aux erreurs du XXe siècle et aux erreurs de tous les siècles qui ont suivi et qui suivront encore. Ensuite, le pape, dans la deuxième partie, après avoir présenté Saint Thomas et la scolastique, montre l'influence de Saint Thomas dans les siècles qui l'ont suivi. Et surtout, le sommet, on pourrait dire, ça a été au Concile de Trente, quand les pères du Concile de Trente ont mis au milieu de l'assemblée des pères du Concile de Trente, avec le livre des Divines Écritures et les décrets des pontifes romains, sur l'autel, ils ont mis la somme de Saint Thomas d'Aquin ouverte, pour qu'on ne puisse y puiser des conseils, des raisons, des oracles. C'est fort. Saint Thomas a été utilisé pendant le Concile de Trente comme vraiment le docteur commun déjà de l'Église. Et c'est intéressant quand on étudie un traité, même un chapitre du catéchisme, un traité au séminaire de théologie, de comparer l'ordre dans le catéchisme du Concile de Trente, les exemples qui sont utilisés, les citations de l'Écriture des Pères de l'Église avec les lieux dans saint Thomas d'Aquin, c'est exactement la même chose, à 90% des cas. Et Léon XIII fait aussi une remarque qui est intéressante, qui rejoint un peu notre thèse. Il dit, certains chefs hérétiques ont hautement déclaré qu'une fois la doctrine de saint Thomas supprimée, il se faisait fort d'engager une lutte victorieuse avec tous les docteurs catholiques et d'anéantir l'Église. Déjà, il réfère ici à des protestants du XVIe siècle. Éliminer saint Thomas et on bat l'Église catholique sans problème. Ce n'est pas surprenant si, justement, on a vu au Vatican II, on a vu cette même tendance d'éliminer cette forteresse qui contient la raison humaine dans sa pureté, avec ses principes. Et le pape conclut son encyclique en donnant différents motifs pour lesquels pour lesquels il faut pousser l'étude de saint Thomas. Alors, rappelez-vous cette encyclique « Eterni Patris » de Léon XIII. Peu de temps après, une année plus tard, dans un bref proclamant saint Thomas patron des écoles catholiques, le 4 août 1880, Léon XIII reprend un peu cette idée qu'on a besoin de saint Thomas, on aura toujours besoin de saint Thomas. Sa doctrine étant formée et comme armée de principes d'une grande largeur d'application, elle répond aux nécessités, non pas d'une époque seulement, mais de tous les temps. Et elle est très propre à vaincre les erreurs sans cesse renaissantes. Se soutenant par sa propre force et sa propre valeur, elle demeure invincible et cause aux adversaires un profond effroi. C'est ce que les papes nous enseignent. Allez à saint Thomas, un peu comme le pharaon disait en Égypte, « Ite ad Joseph », allez à Joseph, mon premier intendant. Le pape, les papes nous disent « Allez à saint Thomas » et vous aurez des idées claires, vous aurez une formation solide et un langage clair. Passons à saint Pédis, notre saint patron, saint Pédis. Saint Pédis connaissait bien saint Thomas bien avant de devenir pape. En tant que vicaire de Tombolo, il était jeune prêtre, il avait déjà écrit un précis de la somme théologique, un résumé de la somme. Quand il est devenu cardinal de Venise, dans les années 1894-95, Loisy, l'abbé Loisy, commençait déjà à répandre ses erreurs, faire des conférences à Paris, et il y avait des échos en Italie, et le cardinal avait déjà fait une étude spéciale des œuvres de Loisy. Ces noms, j'espère, vous sont familiers, Tyrell et Loisy, c'est des chefs modernistes. Dans une correspondance qu'ils avaient entre eux, Loisy écrit à Tyrell qui avait essayé de cacher sous le couvert de saint Thomas d'Aquin des propositions modernistes. Il a essayé de passer du modernisme en utilisant le langage de saint Thomas. Et Loisy lui dit « c'est pas possible ». N'essaye pas. Il jugeait impossible de mettre d'accord saint Thomas d'Aquin et le modernisme. Et Loisy disait justement qu'il faut tout reconstruire sur un nouveau système et reléguer dans l'ombre toutes les sommes issues des cerveaux métaphysiques du Moyen Âge. Et finalement, Tyrell prophétisait la fin de l'Église pour s'être obstiné à puiser dans la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Alors on voit déjà, là on parle des années 1890, cette haine qu'ils avaient pour saint Thomas et la scolastique. Du début à la fin du pontificat de saint Pédis, un court pontificat de 11 ans, le pape verra dans l'étude de la philosophie de la théologie de saint Thomas le grand remède contre le modernisme. Il profite de toutes les occasions pour le faire savoir. Il y a plusieurs documents, je vais insister surtout sur un des derniers qu'il a fait. Mais dans le fameux décret Lamentabili, il y a une liste de 65 propositions modernistes. Loisy, en passant, se reconnaissait l'auteur de 53 des 65 propositions. Donc, saint Pédis avait vraiment visé au cœur du modernisme. C'était en 1907, le 3 juillet. Le 8 septembre, en la fête de la Nativité de la Sainte Vierge, la fameuse lettre encyclique Pascendi. Pascendi qui démolit le modernisme en entrant au cœur du problème. C'est une très longue encyclique, très difficile, mais je vous cite seulement quelques points qui nous concernent. Quand il parle au début des principes des modernistes, saint Pédis dit qu'ils sont d'ordre philosophique. Le modernisme est d'abord une erreur philosophique. C'est l'agnosticisme. La raison humaine est enfermée dans le monde des phénomènes. On ne comprend que ce que l'on voit. Et donc, elle est incapable de monter jusqu'à Dieu qui est invisible. On refuse d'accepter des réalités invisibles. Et ensuite, il passe à l'immanence vitale, c'est une des clés du modernisme. Ça confond le sentiment religieux avec la foi et la révélation. Je fais seulement que mentionner ici parce que Pachendi voudrait une conférence à elle seule.
Après les principes, il passe aux causes du modernisme, la première étant la curiosité et l'orgueil, et la deuxième, l'ignorance de la philosophie scolastique. Alors, voilà ce que Saint-Pédis dit. Ignorant de la philosophie scolastique, il leur a manqué l'instrument nécessaire pour percer les confusions et dissiper les sophismes. Or, c'est d'une alliance de la fausse philosophie avec la foi qu'est née, pétrie d'erreurs, leur système. Comme Saint-Irénée, au deuxième siècle. C'est la même chose. Les erreurs philosophiques sont à la base. Vous voyez, avec la scolastique, on arrive à percer, à voir ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux dans un système, parce que le faux pur n'existe pas, le mal essentiel n'existe pas. Il y a du bon même dans le diable, sa nature angélique, ça c'est bon, mais il a tendu par sa mauvaise volonté. Alors, il faut faire la part des choses, et le scolasticisme fait la part des choses. Le modernisme met à plein sophisme des faux raisonnements. Par exemple, aujourd'hui, sur la liberté religieuse, la liberté de conscience. Et ensuite, vers la fin de l'Antiquité, il passe aux remèdes. Quels sont les remèdes contre le modernisme? Premier remède, le dit Saint-Pédis, en ce qui regarde les études, nous voulons et ordonnons que la philosophie scolastique soit mise à la base des sciences sacrées. Et quand nous prescrivons la philosophie scolastique, ce que nous entendons surtout par là, ceci est capital, dit le pape, c'est la philosophie que nous a léguée le docteur Angélique. Donc c'est clair, il faut s'attacher, il faut s'ancrer sur saint Thomas. Ceci fut écrit le 8 septembre 1907. Au mois de mars suivant, le 7 mars, fête de saint Thomas d'Aquin, Saint-Pédis excommuniait l'abbé Alfred Loisy, solennellement, à la fête de saint Thomas d'Aquin. Saint-Pédis, qui était un homme du pays, un homme qui avait les pieds sur terre, qui avait un sens pratique très très poussé, à chaque fois qu'il donnait des ordres, il donnait aussi une liste de comment il voulait ses ordres réalisés. Et en 1910, il a écrit un motu proprio, un autre document, Sacrorum Antiquitum, établissant des lois pour repousser le péril du modernisme. Il s'est aperçu que son encyclique a déjà commencé à porter des fruits, mais ça ne va pas assez vite et ça manque un peu d'ordre. Alors, un motu proprio pour, dans le détail, que les professeurs, surtout dans les séminaires et les universités, enseignent obligatoirement la philosophie et la théologie scolastique. C'est dans ce motu proprio que Saint-Pédis nous a donné le serment antimoderniste, pour faire en sorte que tous ceux qui accéderaient aux ordres vraiment aient une tête catholique, thomiste. Mais les modernistes, je vous dis, sont rusés. Et ce qu'on a vu jusqu'ici trouve une preuve dans ce qui a suivi. Dans ce motu proprio établissant les lois pour contrecarrer le péril du modernisme, Saint-Pédis avait dit qu'il faut surtout aller à saint Thomas d'Aquin. Alors les modernistes ont dit, bon, le pape a dit surtout. Donc on n'est pas obligé, on peut en utiliser d'autres. Un mot surtout. Alors Saint-Pédis fait un autre motu proprio, et ça c'est presque juste avant sa mort, le 29 juin 1914, il est mort le 20 août 1914. Le 29 juin 1914, il fait un motu proprio qui s'intitule Doctoris Angelici, docteur angélique. Et au début, il explique, il y en a qui ne m'ont pas compris. Quand j'ai dit dans mon document du 1910, Sacrorum Antiquitum, qu'il fallait surtout suivre saint Thomas d'Aquin, je n'ai pas dit qu'il fallait le suivre uniquement. Il y en a qui ont dit, bon, pourvu qu'on suive les docteurs scolastiques, même s'ils ne sont pas d'accord avec Saint Thomas, ça ne fait rien. Et le pape reprend, en cela, ils se sont grandement trompés. Lorsque nous donnions, je cite Saint-Pédice, au nôtre Saint Thomas comme chef de la philosophie scolastique, il va de soi que nous avions voulu surtout l'entendre de ses principes sur lesquels, comme sur ses fondements, cette philosophie repose. Les principes de Saint Thomas sont immuables. Et il développe un peu, et vous allez voir, on retrouve, ça a été un peu difficile jusqu'ici, on retrouve un peu notre schéma, notre plan. Pourquoi la philosophie, pourquoi ce langage est tellement important? Saint-Pédice nous dit, l'erreur touchant la nature des choses engendre une fausse connaissance de Dieu. Si on a des erreurs, si on fausse l'intelligence, même au plan naturel, sur la façon par exemple que l'intelligence accepte la réalité, et comme ça, ce réalisme, que l'intelligence doit se soumettre à la réalité, que toutes nos connaissances viennent des sens. Si on fausse cette erreur, si on fausse l'intelligence au niveau des choses naturelles, ça engendrera une fausse connaissance de Dieu. Alors il continue, de même, doivent être saintement et inviolablement gardés les principes de la philosophie posés par Saint Thomas d'Aquin, en vertu desquels, tout ensemble, et l'on obtient une telle science des choses créées qu'elles s'accordent admirablement avec la foi, et toutes les erreurs de tous les temps sont refutées. De nouveau, Saint Thomas a la clé des erreurs de tous les temps. Il dit qu'essayer de remplacer la philosophie de Saint Thomas par des philosophies modernes, ça aura des conséquences terribles, ça ne marche pas. Ce sera en vain qu'on défendra la vérité catholique avec une philosophie dont les principes sont erronés. Et voici ce qu'il dit, et là on retourne sur justement le titre de notre conférence. Si on retire les principes de Saint Thomas d'Aquin, ou si on les altère en quelque manière que ce soit, il en résulte encore nécessairement ceci, que les étudiants des disciplines sacrées ne perçoivent même plus la signification d'un mot par lesquels les dogmes que Dieu a révélés sont proposés par le magistère de l'Église. Les mots du catéchisme, les mots de notre foi, les mots des encycliques ne voudront plus rien dire si on perd seulement ce langage traditionnel. Et c'est pour ça, il continue, qu'il insiste, qu'il ordonne que tous ceux qui enseignent la philosophie et la théologie ne s'éloigne pas, même d'un pas, surtout dans les choses de la métaphysique, de saint Thomas d'Aquin, car ce serait avec un grand détriment. Et le pape dit, bien sûr, il y a d'autres docteurs dans l'Église, il y a d'autres théologiens qui ont été approuvés, d'autres philosophes, mais il dit, quand l'Église approuve de ces autres philosophes ou théologiens, je cite Saint-Pédis, il est aisé de comprendre que ces enseignements, que ces autres docteurs ont été recommandés dans la mesure où ils s'accordaient avec les principes de saint Thomas d'Aquin, ou qu'ils ne s'y opposaient en aucune manière. C'est vraiment le roc qui a des conséquences pour la foi, conséquences éternelles. Si vous perdez la foi, vous n'irez pas au ciel. Saint-Pédis est mort le 20 août 1914, je dis que ce document, ce motu proprio sur saint Thomas était du mois de juin, 29 juin. Alors, à la fin du juillet 1914, donc c'est moins d'un mois avant sa mort, Saint-Pédis approuve les fameuses 24 thèses thomistes. Après les documents de Saint-Pédis, plusieurs professeurs lui ont demandé, mais ces fameux principes de saint Thomas, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un résumé, au moins une liste? Quels sont-ils? Et alors, la Sacrée Congrégation des études a publié une liste de 24 thèses thomistes. Bon, qu'est-ce que saint Thomas enseigne? Quels sont ses principes métaphysiques? Je vais en voir demain avec vous en parlant de l'analogie et du sacrifice de la messe.
presque sur son lit de mort, Saint Pédis disait, c'est Saint Thomas, tenez bon à Saint Thomas. Il est mort en 1914, les modernistes avaient baissé la tête, mais dès que Saint Pédis fut mort, ils l'ont relevé. Ils ont continué à répandre leurs erreurs. Théodore de Chardin est venu. Et 36 ans plus tard, Pie XII faisait une nouvelle encyclique qui répétait en gros Saint Pie X et Léon XIII, la lettre encyclique Humani Generis du 12 août 1950. Jamais auparavant, une encyclique qui avait à peine 15 ans ne fut désavouée en aussi peu de temps que Humani Generis. Et elle fut reléguée aux oubliettes par ceux-là même qu'elle condamnait. C'est un des... On est vraiment à la fin des... Bon, les années 50, les années juste de la dizaine avant le Concile, les modernistes sont là et ils sont déjà puissants. Dans cette encyclique, Pie XII prend la défense de la philosophia perennis, cette philosophie traditionnelle. Il recommande de conserver le langage dogmatique de l'Église et met en garde devant la trahison de la foi catholique au contact des présupposés philosophiques de l'époque. Je vous donne seulement, et j'arrive vers la fin bientôt, dans la toute première partie de l'encyclique, de Pie XII, où il parle des erreurs actuelles dans le domaine des sciences théologiques, Pie XII va vraiment à la racine des erreurs modernes. La première forme de l'erreur contemporaine, nous dit le pape, c'est de dégager le dogme de son expression scolastique, de changer le vocabulaire, de ne pas utiliser les mêmes mots. Bon, je vais vous citer un petit peu, ça sera pas trop long, mais pour vous montrer que c'est ce que l'Église nous dit, et c'est pour ça qu'il faut étudier. En ce qui concerne la théologie, nous dit Pie XII, certains entendent réduire le plus possible la signification des dogmes, libérer le dogme lui-même de la manière de s'exprimer en usage dans l'Église depuis longtemps et des concepts philosophiques en vigueur chez les docteurs catholiques pour retourner dans l'exposition de la doctrine catholique aux expressions employées par la Sainte Écriture et par les Pères. On dit qu'il faut retourner aux sources, ces fameuses sources dont on nous a rabâché les oreilles à propos de la liturgie, il faut retourner aux sources. Mais justement, les sources ont été synthétisé par ces docteurs scolastiques du Moyen-Âge qui étaient beaucoup plus près des sources que nous. Les modernes espèrent ainsi que le dogme, dépouillé des éléments de ce qu'ils appellent extrinsèques à la révélation, tout ce scolastique a été ajouté plus tard, alors il faut la purifier, il faut purifier notre foi de ces grands mots, de ces expressions techniques. Alors ils espèrent que le dogme puisse être avec fruit comparé aux opinions de ceux qui sont séparés de l'unité de l'Église, ce qui permettrait d'arriver petit à petit à l'assimilation du dogme catholique et des idées des dissidents, de l'écuménisme. Alors si on se débarrasse de ces termes, peut-être qu'on pourra rapprocher ceux qui sont dans l'Église. En outre, la doctrine catholique, une fois ainsi réduite, il pense de cette manière donner le moyen de satisfaire aux besoins actuels, en exprimant le dogme dans des notions de la philosophie actuelle, l'immanentisme, l'idéalisme, l'existentialisme ou autre. Non seulement les modernes, les Congars, Delubac, Ramskung, Schilbeck, tous ces gens-là contre qui le pape nous avertissait, nous préparait, non seulement ils essaient de dégager l'expression des dogmes, les dogmes de leur expression scolastique, mais ces gens-là niaient qu'on puisse exprimer la vérité révélée dans des notions qui auraient une valeur permanente, qui ne changeraient pas, qui seraient immuables. Mais ces gens-là niaient qu'on puisse exprimer la vérité révélée dans des notions qui auraient une valeur permanente, qui ne changerait pas, qui serait immuable. Qu'une vérité soit dite aujourd'hui, qui soit aussi vraie dans 100 ans. Pour les philosophes modernes, ça c'est impossible. Parce que la vérité, c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Dans 10 ans, ce sera différent, alors il faudra la changer. Et il y a 100 ans, c'était comme ça. Même le cardinal Ratzinger lui-même a dit, le syllabus de Pie IX, c'est très bien. Mais c'était en 1864. C'était très bien à l'époque. Mais aujourd'hui, nous sommes en 1990. Il faut s'adapter à notre époque. C'est vraiment ce qu'on enseigne. Et Pie XII le condamnait en 1950, 10 ans avant le concile, 12 ans avant le concile. Certains, plus audacieux, affirment que cela peut, et même que cela doit se faire, ce que j'ai dit auparavant, car prétendent-ils, jamais les mystères de la foi ne peuvent être exprimés en termes vrais, mais seulement en termes approximatifs et toujours changeables, qui indiquent la vérité dans une certaine mesure, mais qui la déforment aussi nécessairement. Alors, quand on dit que la présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, le changement qui s'opère s'appelle la transsubstantiation, les modernistes disent, bon, ça c'est une... Le mot transsubstantiation, ça exprime ce qui se passe d'une certaine façon, c'est selon que vous la comprenez, que vous comprenez le mystère aujourd'hui. Mais dans 10 ans, on le comprendra différemment, alors on va peut-être appeler ça la transsignification. Ou bien non, l'épanation, ou bien non, ce que vous voulez. Tous ces termes, d'ailleurs, ont déjà été utilisés par les protestants au XVIe siècle. On ne fait qu'y retourner. Oui, alors ils disent, les mots qu'on emploie ne sont pas absolus. C'est approximatif. Bon. Que notre Seigneur soit consubstantiel au Père, qu'il soit fils de Dieu, bon, c'est une expression, il ne faut pas prendre ça littéralement. C'est approximatif. Ces philosophes, c'est moderne, continue le pape, c'est pourquoi ils ne jugent pas absurde, mais au contraire absolument nécessaire, eux, ils disent que c'est nécessaire, que la théologie, selon les diverses philosophies dont au cours des temps elle se sert comme d'instrument, il est nécessaire qu'elle substitue de nouvelles notions aux anciennes, de telle sorte que sous des modes divers, ou même dans une certaine mesure opposés, mais équivalents selon eux, elle exprime de manière humaine les mêmes vérités divines. Ils ajoutent que l'histoire des dogmes consiste à exprimer les différentes formes que la vérité révélée a revêtues successivement selon les diverses doctrines et systèmes qui virent le jour au cours des siècles. Donc, la foi catholique grandit. Notre Seigneur dit, c'est comme un grain de sénévé qui grandit. Mais il y a une évolution homogène du dogme catholique. C'est comme quand nous étions petits, nous avons grandi, nous avons cru, mais nous sommes restés les mêmes personnes. Et le dogme, c'est pareil. Ce que les théologiens font, surtout quand il y a des hérésies, quand il y a des conciles, ils n'inventent pas de nouvelles vérités, ils ne font qu'approfondir des vérités qu'on connaît déjà. Pénétrer. Bon, par exemple, le mystère de la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, qui a été définie comme dogme en 1854, n'était pas une nouvelle vérité. On a toujours cru que la Sainte Vierge était la toute pure, la sans tâche. Les pères de l'Église l'ont parlé, l'ont dit. Mais les mots Immaculée Conception ne se trouvent pas dans le Nouveau Testament. Cependant, on trouve le mot pleine de grâce. Alors, la théologie, réfléchissant et en étudiant les Écritures, le mot de la Genèse, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, le mot de l'archange Gabriel, pleine de grâce, ils disent, bon, la Sainte Vierge doit être immaculée dans sa conception, sinon l'inimitié ne serait pas absolue, sinon la Sainte Vierge ne serait pas pleine de grâce. Alors, mais la Sainte Vierge, ce dogme qu'elle est immaculée dans sa conception, qu'elle a été préservée dès le premier instant de sa conception de la tâche du péché originel, Ce n'était pas une nouvelle vérité en 1854. C'était une ancienne vérité que le pape a dit, cette vérité fait bien partie du dépôt de la foi. De même l'Assomption en 1950. Mais eux disent, les modernistes disent, non, le dogme, saint Thomas d'Aquin l'a exprimé comme ça au XIIIe siècle. Bon, c'était sa façon de voir au XIIIe siècle parce qu'ils étaient influencés par la philosophie de l'époque. Maintenant, on le voit différemment. Maintenant, il faut prendre l'idée du philosophe d'aujourd'hui. Et voilà ce que Pie XII dit. Il est clair, d'après ce que nous avons dit, que ces tentatives que nous venons de voir non seulement conduisent au relativisme dogmatique, c'est que la vérité, elle varie selon les époques, mais qu'elles le contiennent déjà en fait. Le mépris de la doctrine communément enseignée et des termes dans lesquels elle est exprimée n'y prête déjà que trop. Il n'y a personne qui ne voit que les expressions employées, soit dans les classes, soit par le magistère de l'Église pour exprimer ces notions, peuvent être améliorées et perfectionnées. On peut toujours pénétrer davantage nos vérités de foi. On sait d'ailleurs que l'Église n'a pas constamment employé les mêmes termes. Il est clair également que l'Église ne peut se lier à n'importe quel système philosophique dont le règne dure peu de temps. Mais les expressions, les mots, les termes qui, durant des siècles, furent établis du consentement commun des docteurs catholiques pour arriver à quelque intelligence du dogme, ne repose assurément pas sur un fondement fragile, c'est sur du roc. Elle repose en effet sur des principes et des notions déduites de la véritable connaissance des choses créées. Dans la déduction de ces connaissances, la vérité révélée a éclairé comme une étoile l'esprit humain par le moyen de l'Église. C'est pourquoi il n'y a pas à s'étonner si certaines de ces notions non seulement ont été employés dans les conciles œcuméniques, mais en ont reçu une telle sanction qu'il n'est pas permis de s'en éloigner. Donc on n'a pas le droit d'abolir certains termes qu'on utilise dans notre foi. Quand on parle, par exemple, des espèces sacramentelles ou de la transubstantiation, pour revenir à cet exemple-là, il y a des termes qu'on ne peut pas changer, on n'a pas le droit de changer. Aussi est-il de la plus grande imprudence de négliger ou de rejeter ou de priver de leur valeur tant de notions importantes que les hommes de génie d'une sainteté non commun, sous la vigilance du magistère et non sans l'illumination de la conduite du Saint-Esprit, ont conçu, exprimé et précisé dans un travail plusieurs fois séculaire pour formuler toujours exactement les vérités de la foi. Il est imprudent de leur substituer des notions, des expressions flottantes et vagues d'une philosophie nouvelle qui existe aujourd'hui et disparaîtront demain comme la fleur des champs. C'est faire du dogme lui-même comme un roseau agité par le vent. Nous sommes vraiment là au cœur de la foi et comme je vous dis, ça concerne toutes les conférences qu'on peut vous donner, que toutes les études qu'on peut faire. Dès qu'on ouvre la bouche, dès qu'on ouvre un livre, Fides ex auditu, nous dit saint Paul, la foi vient de ce qu'on entend. Alors ce qu'on entend, quels seront les termes qui seront utilisés pour que la foi perdure à travers les siècles? Il faut garder les mêmes expressions. Et malheureusement, les promoteurs de cette nouvelle théologie que Pie XII condamnait furent créés cardinaux 10 ans plus tard. Et voilà la crise que nous vivons, justement. Et vous voyez très bien cette nouvelle théologie, pour reprendre l'expression de l'abbé Dorman dans son livre, toutes ces nouvelles théologies ont en commun une chose, le rejet de la théologie traditionnelle. Monseigneur Lefebvre, dans son livre, Un évêque parle, disait justement qu'au Concile Vatican II, ils n'ont jamais voulu définir exactement les termes qu'on utilisait. Et c'est ce refus de définition, ce refus d'examiner philosophiquement et théologiquement les sujets qui étaient traités, qui a fait que nous n'avons pu que décrire les sujets, mais non pas les définir. Et bien souvent même, on a faussé la définition traditionnelle. Comme je disais, ils n'ont jamais défini ce que signifiait un concile pastoral. Ça veut dire quoi un concile pastoral? On ne sait pas. C'était Hans Kuhn lui-même qui a dit, on n'a jamais pris le temps de définir la signification des mots un concile pastoral. On a décrit, on a exprimé par différentes façons, mais ça veut dire quoi au juste? On ne sait pas. C'est flou, c'est vague. Et dans le concile, il y a eu un cas qui vous est certainement connu. Un point, par exemple, un exemple très clair. On a voulu, pendant le concile, et de fait, maintenant, dans le nouveau code de droit canon, c'est fait, et dans le nouveau catéchisme aussi, invertir, changer la définition du mariage, changer l'ordre des fins du mariage. La fin primaire, la procréation et l'éducation des enfants, et la fin secondaire, l'amour conjugal. Il y a un ordre, il y a une fin primaire, il y a une fin secondaire, il y a un ordre, premier, second. Au concile, on a voulu dire que c'était équivalent, qu'on pouvait mettre l'un devant l'autre, c'est la même chose. Et dans le nouveau code de droit canon, ils mettent l'amour conjugal avant la procréation des enfants, ce qui fait que, si ça vous plaît, si c'est pour l'épanouissement de votre personnalité, de ne pas avoir d'enfants, eh bien, c'est très bien, puisque vous remplissez la fin, la première fin du mariage, qui est l'amour conjugal. Alors, s'ils invertissent, invertir même l'ordre de mots, ça a des conséquences terribles. Ça ouvre la porte à l'avortement, au divorce, tout ce que vous voulez. Même l'ordre des mots. Et le cardinal Brown, quand on a introduit cela, le cardinal Brown, qui faisait partie du Saint-Office, s'est levé et a lancé un solennel caveatis. Caveatis, attention! Si nous acceptons cette définition, nous allons contre toute la tradition de l'Église et nous allons pervertir le sens du mariage. Nous n'avons pas le droit d'aller contre les définitions traditionnelles de l'Église. Vous voyez, seulement, même pas changer les mots, mais changer l'ordre des mots. Il y a un ordre traditionnel. Alors, vous voyez maintenant peut-être un peu plus clairement la raison de cette conférence. Il faut garder notre langage traditionnel, scolastique, qui nous a été donné justement par ces philosophes, ces grands penseurs catholiques, ces vocabulaires qui ont été ensuite utilisés par la théologie pour exprimer du mieux qu'on pouvait notre foi. Alors, rejeter le langage, c'est à la fin du compte rejeter toute la tradition et toute la foi catholique. Notre foi catholique, elle est apostolique. L'apostolicité, c'est justement cette continuité à travers le temps, non seulement dans la mission légitime des évêques, des papes, mais aussi dans la même doctrine inchangée au cours des siècles. In eodem sensu et ademque sententia. Dans le même sens, et même dans les mêmes paroles, dans le même vocabulaire. Alors prions bien Saint Thomas et lisez la vie de Saint Thomas, lisez un peu les écrits qui vous font connaître Saint Thomas. Demain matin, nous verrons l'application d'une de ces notions, d'un de ces principes de Saint Thomas, le principe de l'analogie appliqué au Saint Sacrifice de la Messe.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saint Pilis, Saint Thomas d'Aquin.
Même à tel point qu'elle fonde cette unité sur une idée théologique, l'idée que tous les hommes proviennent d'un seul. L'unité future du genre humain est inscrite dans son unité fondamentale passée. Et il est bien évident que l'ambition d'unifier l'humanité l'ambition de réaliser une humanité unie est une ambition non seulement parfaitement naturelle, mais parfaitement catholique et profondément religieuse. Le fait que les hommes ne parviennent pas à cette unité, mais qu'ils y pensent en permanence, que c'est une idée qui me travaille, me porte à penser qu'il y a quelque chose dans l'existence nationale d'un châtiment. Cela étant, j'ajoute tout de suite qu'il ne convient, ayant dit cela, de ne pas confondre les projets d'unité de l'humanité que le vagues ONU, Nations Unies, je ne sais pas comment on appelle ces machins, se propose avec l'unité vers laquelle tend, par exemple, l'Église catholique. D'une certaine manière, pour aller vite, et je n'ai pas le temps de démontrer, de m'apesantir sur la question, et j'aurais tendance à penser au contraire que la seule forme